connaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France.
CO2.
Protestent contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite avec Dofar Guérit et Guillaume Roux à la technique et assisté de Marion Lelay et de Jean-Christophe Pinaza. C'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, des petites humeurs comme ça. Ce week-end à La Rochelle, c'est le congrès donc des Verts Europe Écologie, ça ne vous a pas échappé. Question à poser à Nicolas Hulot qui s'est cassé malheureusement le bras lors d'une chute à bicyclette, il n'a pas de chance. L'abus de téléphone portable est-il plus dangereux pour la santé que le vélo? Alors, réponse du Centre international de recherche sur le cancer. 15 ans après l'irruption du portable dans nos vies sonnantes et trépidantes, on nous confirme ce que l'on savait déjà depuis longtemps. Les ondes radio émises par les radars, téléphones portables, antennes relais et autres fours à micro-ondes ne sont peut-être pas si inoffensives qu'on veut bien le dire. Rester des heures le portable scotché à l'oreille, par exemple, pourrait potentiellement augmenter les risques et développer un gliome, donc une des formes les plus répandues de la tumeur du cerveau. Alors on l'a compris, le sans-fil à tous les étages. Si on tient à ses neurones, on préfère l'oreillette, les textos, ou bien même, et oui, le bon vieux téléphone filaire qu'on rebaptisera bientôt téléphone bio. Riposte immédiate des opérateurs de téléphonie mobile qui nous font remarquer, non sans ironie, que dans la catégorie produits classés comme potentiellement cancérigènes, on trouve aussi les pesticides et les cornichons. Et oui, est-ce que vous en connaissez, vous, des ados qui passent leur vie avec un cornichon collé à l'oreille ? Autre information, ours du Béarn, suite et fin. NKM nous l'annonce mercredi, l'ours France K, vous savez, victime d'un accident de la route parce qu'elle avait mal traversé en 2004, ne sera pas remplacée. La promesse de Chantal Joanneau de réintroduire une ours femelle dans les Pyrénées occidentales est repoussée au calende électoral. Et les deux derniers mâles du coin ne feront pas de vieux os, au moins on ne les accusera pas de machisme. Bref, un avis de décès rondement mené, puisqu'en une vingtaine d'années à peine, on aura nettoyé la seule région des Pyrénées où l'ours n'avait jamais complètement disparu. Alors c'est peut-être ça la stratégie nationale de la biodiversité, je ne sais pas. Des pâturages tirés au cordeau, des pistes pour les quads, des brebis qui font de la figuration, extension de stations de ski et pas la moindre bête sauvage à l'origine. Et pour les nostalgiques d'un passé pas si lointain, où l'homme et l'ours faisaient à peu près, je dis bien à peu près bon ménage, la silhouette d'un gentil plantigrade sur l'étiquette des pots de miel, ça on peut le tolérer. Pas de quoi en faire un fromage, vous diront les éleveurs du cru, dont on comprend aussi très bien les vrais problèmes. Hein. Mais entre la hausse du cours des céréales, le fromage de brebis grec et l'agneau néo-zélandais, que voulez-vous ? L'ours émissaire a encore un bel avenir. Et enfin en Allemagne, eh bien, la variante toxique continue donc de faire des victimes. On nous l'a confirmé cette semaine, donc pas la moindre trace de cette souche particulièrement virulente dans les concombres espagnols, ni chez les producteurs de légumes. Et selon les spécialistes, la contamination est ailleurs. Sauf que le mal est fait, parce qu'à désigner trop vite les présumés coupables, les autorités de santé ont torpillé le marché des légumes frais. Le régime des 5 fruits et légumes par jour est aux abonnés absents, les étals des primeurs sont désertés, les frigos pleins de tomates, salades, concombres nous chantent le blues du maraîcher. Alors Luc Ferry ne s'est pas encore exprimé sur le sujet, mais de la part de cet homme qui sait tout ou presque, ce n'est peut-être pas tout à fait utile. Dans cette émission, je vous emmènerai dans le département du Maine-et-Loire. On découvrira donc la culture de plantes médicinales. Nous serons dans la région des Mauges. Dans quelques instants, c'est Jean-Marie Pelt. Et puis pour l'actualité, mais déjà donc avec nous, Frédéric Danhé. Bonjour Frédéric.
Bonjour Denis.
Alors vous intervenez tout à fait régulièrement dans cette émission. Mais on va rappeler que vous êtes d'abord ingénieur en environnement, que vous avez écrit donc un certain nombre d'ouvrages comme l'Atlas du réchauffement climatique. Vous venez de ressortir les pollutions invisibles, Quelle France en 2030, la fabrique de nos peurs. Vous reviendrez au mois de septembre pour un ouvrage aussi sur le carbone. Peut-être une petite réaction par rapport au portable.
Mais vous avez tout dit, Denis. Ça fait belle lurette qu'on sait, qu'on se doute que les ondes ne sont pas forcément, sont plutôt cancérigènes. Moi, on m'en parlait en fac, déjà. On m'en parlait même au lycée. Voilà, ouais. À l'époque, dans les années 80, il y avait une polémique sur le micro-ondes. Donc l'OMS ne fait qu'enfoncer une porte déjà ouverte. Mais vous l'avez bien dit, entre le produit qui est cancérigène ou possiblement cancérigène et le fait de développer un cancer, il y a ce qu'on appelle l'exposition, c'est-à-dire le nombre d'heures qu'on va passer avec son portable. Et là, effectivement, les industriels rigolent beaucoup, parce que si vous regardez bien la liste du CICR, du comité international de recherche sur le cancer, dans la liste 1 des cancérogènes strictes, il y a à la fois des pesticides et la pilule, par exemple. Il y a aussi beaucoup de médicaments utilisés en chimiothérapie. C'est quand même assez drôle d'avoir des médicaments utilisés contre le cancer qui sont eux-mêmes cancérigènes. Donc voilà, il faut raison garder, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a aucune raison. Par contre, il est évident, mais ça, on le sait depuis 5 ou 6 ans, que les gens qui passent plus de 4 heures sur leur téléphone portable par jour ont un risque accentué. Ça ne veut pas dire qu'ils auront un cancer. Ils ont un risque accentué de contracter ou un gliome ou un neurinome, c'est-à-dire un cancer du nerf auditif.
Bien. Et en tout cas, l'oreillette, oui.
L'oreillette, oui. Les SMS, tout ça. Hein. L'oreillette, c'est vous avez une dose de radiation 100 fois moindre que si vous avez le téléphone collé à l'oreille.
Bien. On va se prendre une petite dose de Jean-Marie Pelt qui va... Bah, c'est pas mal non plus.
C'est
parfait. Allez, bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis. Bonjour à tous.
Des nouvelles du temps aujourd'hui, s'il vous plaît.
Oui, du temps qu'il fait. Oui. Pas du temps qu'il passe. Non. Il passe toujours à la même vitesse, bien qu'on a l'impression qu'il va de plus en plus vite, parce qu'on est de plus en plus agité et de plus en plus fébrile. Donc on a l'impression que les journées sont de plus en plus courtes. Mais le temps qu'il fait... Alors, il y a une information qui est passée inaperçue, mais qui m'a bien intéressé. En Antarctique, les 6 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. C'est dans l'Antarctique. On parle sans arrêt de la banquise arctique, parce qu'on verse évidemment des larmes de compassion pour l'ours polaire... Mais on ne parlait pas de l'Antarctique. Et donc, on voit que sur les deux pôles, c'est le même phénomène d'un fort réchauffement qui se produit.
Et on donne très peu la parole aux manchots.
Très peu la parole aux manchots. Et d'ailleurs, le réchauffement se produit partout. Beaucoup moins vite dans les zones intertropicales, beaucoup plus vite au niveau des pôles. Ceci nous permet de dire qu'il n'y a pas de doute sur le réchauffement planétaire qui est un fait avéré. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on bat sans arrêt des records de chaleur et qu'on ne bat pratiquement pas des records de froid. Et ceci depuis déjà de nombreuses années. Nous avons eu un mois d'avril très chaud. Nous avons un mois de mai qui a été aussi très ensoleillé avec cet anticyclone qui est bien posé sur l'Europe occidentale. Avril, il y a eu 4 degrés de plus par rapport à la moyenne des mois d'avril depuis l'an 1900. Oui. Le seul mois d'avril qui était un peu plus chaud, c'était celui de 2007, où l'augmentation était de 4,3 degrés. Donc vous voyez, c'est quand même tout proche de chez nous. C'est proche de 2011, donc nous sommes depuis en gros 1970 devant une tendance à un réchauffement dans nos régions d'Europe occidentale également. Alors ce qui est à noter, c'est intéressant ça, c'est qu'il fait plus chaud le jour. Et il fait moins chaud la nuit, ça on le sait, mais l'augmentation par rapport aux moyennes est plus forte de jour que de nuit parce que le ciel est complètement dégagé par l'anticyclone et par conséquent, la nuit, la chaleur se réfracte dans l'atmosphère.
Alors, est-ce qu'on aura en fait un été, on va dire, aussi long et aussi sec et chaud que 1976?
Alors je ne suis pas prophète, moi je lis ce que disent les météorologues, ils pensent qu'on aura un été chaud, ils craignent qu'on ait beaucoup d'orages violents. Voilà ce qui semble se dessiner. Et c'est vrai que ça commence comme le scénario de 76, par un printemps quand même très chaud et très sec. Alors, ce que je trouve bizarre, c'est que dans notre pays, l'Ouest, et en particulier la région Poitou-Charentes, est de plus en plus sèche. Il y pleut très peu et ça dure depuis plusieurs années. Alors, imaginez toutes les hypothèses. Est-ce que Ségolène Royal a une incidence très forte sur le climat? C'est peu probable.
Peu probable.
Nous sommes des scientifiques, n'est-ce pas? Donc c'est peu probable. Alors pourquoi, dans une région d'habitude très arrosée, y a-t-il maintenant cette tendance à la sécheresse? Est-ce que c'est la sécheresse méditerranéenne qui commence à remonter puisque les températures augmentent de plus en plus en allant vers le nord maintenant? Mais alors on regarde le midi méditerranéen, là on voit le spectacle inverse. Alors là il pleut beaucoup, il y a eu un hiver et un printemps extrêmement pluvieux. Et ça dure aussi depuis quelques années. Et puis il y a en été des pluies plus fréquentes qu'autrefois. Moi, j'ai connu la Côte d'Azur avec un ciel bleu du 15 juin jusqu'à fin août, sans un nuage, avec un orage peut-être. Maintenant, c'est beaucoup plus fréquent, la pluie en été. Donc, il y a aussi quelque chose là qui a changé. Mais ce n'est pas très grave, parce que nos amis, les Méditerranéens, ne s'en sont pas aperçus. Ce que je trouve merveilleux chez eux, c'est qu'ils ont tellement intégré le fait qu'il fait beau toute l'année, tout le temps, que quand il pleut, ils disent qu'il fait beau. je trouve ça très intéressant.
Si on regarde la planète...
Alors, si on regarde la planète, alors on voit qu'il y a de plus en plus d'événements météorologiques graves, ce qui est le contre-coup à payer du réchauffement, parce que le réchauffement n'est pas un phénomène qui se fait en douceur, il se fait par des à-coups. Oui. Alors, quels à-coups ? Ben, voilà, on vient d'apprendre que le Yangtze, en raison de la sécheresse en Chine, est tellement bas qu'on ne peut plus naviguer dessus, ce qui est évidemment, pour le plus grand fleuve chinois, une nouvelle stupéfiante, à vrai dire. Bon, on a eu une sécheresse historique il y a 2 ans en Ukraine et en Australie qui ont prodigieusement fait monter le cours du blé. Vous vous rappelez, c'est tout récent. Nous avons eu ensuite de grosses inondations en Australie, au Pakistan, au Brésil. Et tout ça, naturellement, a des grandes conséquences sur l'agriculture parce que les longues sécheresses, c'est évidemment des récoltes médiocres. Et les émeutes de la faim qu'on a connues sont aussi liées à tous ces phénomènes. Alors on peut ajouter à ça que nous avons eu, mais ça c'est pas le climat, une ribambelle d'énormes tremblements de terre qui se sont suivis à un rythme extraordinaire comme ça n'a jamais été le cas. On a eu Haïti et le Chili en 2010, on a eu la Nouvelle-Zélande et évidemment le Japon avec Fukushima en 2011, de sorte que la totalité des catastrophes naturelles est en forte augmentation.
Mais on rappelle, hein, rien à voir avec le climat ni avec la météo. Hein,
non, pas du tout. Oui. Et on a ici des chiffres qui sont tout à fait intéressants. Pour 2010, le coût des catastrophes qui est mesuré par les réassureurs qui savent ce que ça leur coûte d'indemniser les victimes, eh bien en 2010, ce coût a été 3 fois supérieur à la moyenne annuelle. Donc là, on a des chiffres objectifs. Ce n'est pas les médias qui exagèrent quand ils nous montrent ces images. Il y a bien, en tout cas, des sinistres plus graves et plus nombreux.
Combien ça a coûté ?
Ben écoutez, on a un chiffre pour les 4 premiers mois de 2011 qui vient des réassureurs, qui est de 50 milliards de dollars de dommages sur 4 mois. Alors, l'impression qu'on a, c'est que la nature est très agitée.
Il n'y a pas qu'elle.
Oui, les humains aussi. Oui. Ça bouge partout, c'est très curieux. J'allais dire, si on était au Moyen-Âge, on dirait que les hommes qui représentent le microcosme sont agités comme les le macrocosme. C'est ce que dirait un homme du Moyen-Âge. Oui. Et s'il avait une part de vérité là-dedans, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une agitation partout, très importante, ce qui fait évidemment le bonheur des médias qui peuvent nous montrer en boucle des belles images. Et moralité de l'histoire, il faut diminuer le dégagement de gaz carbonique.
Merci, cher Jean-Marie Pell. Donc, c'était notre grand tour du Moyen-Âge au XXIe siècle avec vous. Et on vous retrouvera dans ce XXIe siècle très prochainement. Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
Et dans quelques instants, deuxième partie, oh oui, donc de Jean-France Inter, saut de mon amour, ce sera une petite balade du côté des plantes médicinales, dans les Mauges, après Keren Han.
You're hardly a superstar, but you're a serious man. You need a serious car and some girl with a plan. So take me for a ride, you can surprise me. Somewhere in the wild, you can lay down beside me. Sugar.
Sugar Mama, c'était oui, une maman tout à fait sucrée, bien sûr. Donc c'était Kerenan sur France Inter. J'espère que vous allez bien dans ce week-end de l'Ascension. Bah, nous, on va monter dans un pays en fait qui ne monte pas très très fort. Hein, ce n'est pas du tout les Alpes. On va aller dans le Maine-et-Loire.
Laurent Martineau, c'est drôlement bien. Par qui on est accueilli aujourd'hui chez vous dans les Mauges?
J'ai une petite chouette huppée là.
Ouais.
Quelqu'un a décollé de l'arbre qui a rejoint les sapins plus loin. Je l'avais encore jamais remarqué, donc c'est super.
Ah, c'est bien. Et puis alors, donc, elle est au-dessus d'une mare, donc elle a
ouais,
tout ce qu'il faut.
Ah bah, tout à fait. Elle est vraiment dans son milieu là. Elle est super. Hein.
Alors on est chez vous, Laurent Martineau, parce que vous êtes producteur de plantes médicinales. Et peut-être aussi nous rappeler quelle est un peu la tradition ici dans ce territoire des Mauges. Hein, donc on est à une portée d'arbalète de Chemillé. Tradition qui date de quand, donc, des plantes médicinales?
Alors là, c'est une très très longue tradition. La date la plus proche, elle est quand même de 1850, puisque ça a été vraiment le point de départ.
Ouais.
C'est les années où le phylloxéra ont détruit tout le vignoble local. Et à cette époque, il y a Godillon, Pierre-Aimé Godillon, qui a eu l'idée de développer la culture de la camomille. Pour remplacer la vigne, le temps de réimplanter la vigne, il a fallu faire autre chose.
Au lieu de boire du vin, on a bu de la camomille.
Tout à fait. À une époque, effectivement, on ne buvait plus de vin.
D'accord.
Et depuis, c'est resté. Des gens se sont mis en place, des entreprises se sont mis en place. Il y a eu du négoce local. On a diversifié les plantes. Comme beaucoup de secteurs agricoles, ça s'est ensuite spécialisé dans le temps. Et aujourd'hui, bah, c'est une production qui s'est très spécialisée, qui concerne environ 80 producteurs sur la région des Mauges.
Alors, vous l'avez compris, nous sommes dans les Mauges, c'est-à-dire dans le Pays de Loire, mais pas très loin de la Vendée, pas très loin du Poitou, donc une région qui balance entre agriculture et puis PME extrêmement active. Hein. Alors vous imaginez de longues lignes droites, bien monotones, taillées par Napoléon pour pacifier la Vendée, mais avec toujours un clocher en point de mire qui sert de repère à l'œil. Alors aujourd'hui, c'est un peu les éoliennes hein, qui toisent les clochers, mais de part et d'autre, ces lignes droites, eh bien, vous avez des chemins creux de bocage, gorgés de nature vagabonde. Alors c'est un régal hein, pour les chouettes qui trouvent des abris subtils, on l'a compris. Moi j'en ai quand même vu 8 en 2 km, voilà, des chevêches bien sûr. Et d'un côté vous avez donc le royaume de l'entrepreneuriat, puis de l'autre, les secrets foisonnants d'une biodiversité faiseuse de vie. Alors moi je vais vous envoyer des fleurs hein, aujourd'hui, mais médicinales, car on tient quand même beaucoup à vous. Pourquoi le Maine-et-Loire? Parce qu'en fait c'est une zone traditionnelle de production de plantes médicinales. Hein. J'oublierai pas nos amis de Corse, d'Ardèche, de la Drôme, du Sud-Ouest, on fait le ginkgo biloba, il y en a un peu partout. Mais quand même, on a 10 000 hectares en France de plantes médicinales et on en a quand même beaucoup dans le Maine-et-Loire. Alors nous avons donc un chef d'entreprise que vous allez découvrir, Samuel Gabory, qui a éclairé Fleurs des Mauges. Nous avons cet agriculteur, Laurent Martineau, et nous avons aussi Alexandre Piette qui va nous accompagner également puisqu'il est accompagnateur naturaliste de l'association Camifolia. C'est parti.
En Anjou, on a environ 800 hectares de production de plantes médicinales, dont les trois quarts quand même cultivés dans la région Chemillé, dans le territoire communautaire. Et dans ces trois quarts, il y a 300 hectares de camomille romaine, c'est-à-dire la fleur à ligule blanche, ouais, la fleur double, donc qui est très connue, qui fait la réputation de Chemillé.
Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme plante? Parce que là, on est en train de se promener là, dans les champs, donc là vraiment, c'est dédié à la production, mais qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici?
Alors, on n'a pas que la camomille, on a également le souci, peut-être plus connu sous le nom botanique du calendula. Cette fleur orange, cette pommade sert à, je dirais, apaiser la peau, les coups de soleil.
Alors, je vais me tourner aussi vers vous, Samuel Gabory, parce que vous êtes, je dirais, le troisième acteur indispensable. Vous êtes, vous, entrepreneur. Hein. Vous avez donc créé Fleurs des Mauges avec votre mère, d'ailleurs, qui était tout à fait visionnaire. Racontez-nous comment est née Fleurs des Mauges.
Alors, Fleurs des Mauges est née il y a 25 ans. Ma maman faisait une réaction allergique à des produits de synthèse.
D'accord, donc allergie et hop, on change de méthode.
On change de méthode. L'idée d'une femme, c'est de dire ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour ma planète, j'ai envie de le faire partager à mes amis.
Très intéressant parce que, une fois de plus, on sait que ce changement passe par les femmes. On le voit d'ailleurs très très bien aussi dans le domaine politique, mais même ailleurs. Elles se sont réunies et puis elles ont donc parlé entre elles. Et puis après, elles ont fait connaître les produits aussi.
Elles ont fait connaître les produits, elles se donnent des conseils parce qu'un produit, ça s'utilise avec certains conseils. On n'achète pas un produit comme ça sans savoir ce qu'on achète. Il faut savoir d'où il vient, il faut savoir comment on l'utilise. Et l'écologie, ça passe aussi par un savoir utiliser les produits.
Aujourd'hui, vous travaillez pour qui?
Alors aujourd'hui, on travaille pour l'industrie un petit peu pharmaceutique, beaucoup cosmétique,
ouais,
et aussi tout ce qui est complément alimentaire.
Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme plante? Voilà, on a parlé de la camomille, mais quoi d'autre pour vous?
Une plante locale qui est très intéressante aussi, qui est la mélisse, dont on a aujourd'hui validé les propriétés antioxydantes.
Oui, il n'est pas forcément nécessaire de faire venir une plante de 8000 ou 10000 km pour trouver des plantes qui ont à peu près les mêmes vertus ici?
Exactement. Tout ce savoir-faire ancestral, on le valide avec des méthodes scientifiques et on prouve que les plantes utilisées ancestralement en France, eh bien, ont des vertus et des propriétés aussi importantes que ce qu'on peut trouver, oui, dans la canopée amazonienne.
Ah, alors, Alexandre. Alors là, je vois quand même une plante intéressante, je fais le malin, mais quand même, il y a un petit panneau, donc ça va nous aider. C'est le pyrèthre. Alors le pyrèthre, c'est un insecticide formidable. On parle de pyrèthre et rotenone aussi.
Alors tout à fait. Et ce que j'aimerais dire en même temps, c'est que quand on parle de plantes médicinales, une plante médicinale n'est pas que médicinale. Par exemple, une plante connue, c'est la grande bardane. La grande bardane est médicinale par sa racine. Elle est également comestible, donc elle sert pour l'alimentation dans la cuisine. Elle sert également, elle est utilitaire, c'est elle, avec ses fruits accrochants, qui a inventé le velcro, donc tout à fait intéressante. Et encore quatrième chose, elle est ornementale avec ses grosses feuilles. Donc vous voyez, les plantes médicinales ont également différents domaines. C'est bon, de l'ethnobotanique.
Voilà. Laurent Martineau, alors vous, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous plantez ce que l'on vous demande? Vous avez combien de plantes ici différentes?
Alors là, sur l'exploitation, on a 60 espèces cultivées, plus après des espèces qu'on va aussi cueillir dans la nature, quand la nature est généreuse. Et effectivement, on met en production ce que les industriels nous demandent de mettre en production.
Alors, on n'est pas du tout, en fait, dans un secteur babacool. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, aujourd'hui, des molécules anticancéreuses qui sont extraites aussi de vos plantes.
Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, un produit comme l'IF, par exemple, qui est un produit cueillette, hein, puisqu'il n'y a pas de... Voilà, le Taxol, effectivement, est un produit qui est très important sur le territoire. On récupère les tailles d'IF chez les particuliers, ouais, et on le sèche avec toute une technique, puisque c'est pas aussi simple que ça. C'est pas seulement cueillir. C'est la technique de séchage est très importante pour conserver l'actif dans l'IF. Il faut absolument avoir un dosage pour que l'extracteur après puisse faire son médicament. Ouais. C'est-à-dire que le métier d'agriculteur aujourd'hui, c'est pas seulement fournir une matière première. C'est aussi avoir un échange permanent avec l'industriel qui va nous donner des informations sur ce qu'il recherche dans la plante. Et nous, après, on essaie de traduire au champ ou sur les chantiers de cueillette ce qui peut faire que la plante va être bonne ou pas bonne.
Oui. Alors, souvent, on se dit plante médicinale égale bio. C'est pas forcément le cas.
Non. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de préjugés sur ça. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la production, elle est à 80-90% issue de cultures conventionnelles. Ça reste une des productions leaders dans le monde agricole en termes de pourcentage, si on parle de pourcentage, puisqu'aujourd'hui on estime à 10% à peu près la production en plantes médicinales bio. Pourquoi pas tout en bio? Ben parce que dans l'absolu c'est possible, mais on nous parle beaucoup aujourd'hui de méthodes alternatives. On est preneur de méthodes alternatives, nous, mais aujourd'hui elles n'existent pas ou peu. Et voilà, ça reste très compliqué.
Là, c'est une douceur absolument incroyable.
Hein. Ouais, on rentre dans les champs, ça sèche.
Oui, puis c'est plein de jolies couleurs en plus.
Voilà, c'est les couleurs du printemps, c'est vraiment super.
Alors qu'est-ce qu'on a comme couleur par exemple?
Ah bah écoutez, alors c'est tous les verts des plantes naissantes, donc toujours des verts un peu clairs, un peu tendres. Ouais. Là, on est dans nos cultures bio. On a une équipe en ce moment qui est en train de sarcler. Et il y a beaucoup de verts qui, pour nous, est gênant, puisque c'est les mauvaises herbes dans la culture. Ouais. Et il faut les éliminer, sinon on ne peut pas récolter notre plante. Mais voilà, ça fait partie du travail et c'est aussi des indicateurs. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de mourons dans nos terres, ben, on sait qu'on a des taux de nitrate qui sont un peu trop élevés encore. Malgré qu'on soit en bio, on a des terres qui sont encore un peu trop riches. Et c'est de l'observation permanente de notre métier. C'est le côté passionnant de notre métier.
Et là, vous étiez, je sais pas, un agriculteur conventionnel à l'origine, puis vous êtes mis à ces plantes-là ou bien c'est familial? Comment ça s'est passé?
Ben, je suis comme Samuel et comme Alexandre, en fait. Hein. Je suis tombé dedans tout petit. Ouais. Je suis pas né dans un chou. Moi, je suis né dans une plante médicinale.
Ah oui.
Et je me suis passionné très tôt pour les plantes. C'est la diversité, c'est l'observation, c'est la recherche de nouvelles choses. Tous les ans, on met en place des nouvelles plantes. Et ça, c'est vraiment le côté passionnant du métier, quoi. Mmh. Il y a toujours à apprendre, il y a toujours à découvrir. On est en permanence dans l'innovation végétale. Mmh. Les clients nous interpellent, viennent nous voir maintenant parce que on est reconnus comme des professionnels spécialisés de la plante médicinale. Et ils découvrent plein de choses sur le terrain. Ça commence là, en fait, l'innovation végétale. C'est d'abord sur le terrain. Et ça, c'est le côté passionnant du métier.
Alors, vous avez droit à une plante chacun, celle qui vous plaît. Tenez, allez, Alexandre.
Ah, moi, j'ai envie de dire les magnifiques couleurs. On parlait tout à l'heure de couleurs.
Ah oui.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que du vert, loin de là. Regardez ce champ de soucis qui est orangé, ce champ de pavot de Californie, orangé également. Ce champ bleu, c'est le bleuet. Ce champ violet, c'est pas la lavande, mais c'est de l'hysope, oui. Avec peut-être une préférence pour le souci.
Pardon, grand chauffe, mais ce n'est pas de ma faute, n'est-ce pas? Vous comprenez les choses.
Peu importe si tu as des excuses. Tu as laissé brûler mes dernières feuilles d'algues des marais. Maintenant, faut que j'aille en chercher d'autres.
Je vais vous aider, grand chauffe.
Oh non, merci, schtroumpf à lunettes. Tu m'as assez aidé pour aujourd'hui. Mais petit schtroumpf, il faut que je schtroumpf jusqu'au marais pour chercher d'autres feuilles d'algues. Tâchez de ne pas schtroumpfer de catastrophe.
Oui, Samuel.
On parle beaucoup aujourd'hui de chômage et d'activité économique, mais quand on regarde cette surface qui est somme toute modeste et le nombre de personnes qui aujourd'hui travaillent à entretenir cette surface, on voit vraiment que c'est une culture intéressante et que là, il y a de l'avenir parce que ça emploie des gens, ça fait de l'emploi local et que cette filière, eh bien, c'est vrai qu'on a tous à cœur de la promouvoir.
Et au tout début, il y a une cinquantaine d'années, c'était le travail des étudiants. Ils travaillaient très dur et c'était payé au kilo pour avoir de la camomille.
Bon, et maintenant, ils ne peuvent plus
c'est... Ah si, toujours, ils peuvent. C'est... Mais ils sont beaucoup moins nombreux.
Ils sont moins nombreux. Il faut se baisser, hein, c'est ça. Mais ça.
Ah, il faut se baisser, oui. Puis après, on a cette odeur un peu amère sur les doigts, mais c'est ce qui fait le charme, justement.
Ah ben voilà, donc sur ce son d'alouette, nous allons donc quitter ces mots. Je merci à Laurent Martineau, à Alexandre Piet, hein, ce garçon que vous avez entendu, il a 30 ans. Il est tombé dedans, vraiment, il adore les plantes depuis qu'il est tout petit. Et puis Samuel Gabory, je remercie aussi Olivier Gabory, qui est le directeur du CPIE Loire et Mauges. Ils font un boulot absolument formidable aussi dans ce coin. Voilà, profitez des fleurs si c'est le cas actuellement, si vous nous écoutez, pourquoi pas en plein air. Et dans quelques instants, avec Frédéric Noé, eh bien, nous aurons une actualité agenda. On va mélanger les deux, ce sera juste après. Après Ben, l'oncle Soul, album France Inter. Bah oui.
Oh, elle me dit qu'elle aimerait changer d'air. C'est vrai que par ici, les vies prennent la poussière. Elle me dit qu'elle voudrait voir la mer. D'autres pays, un bonheur ordinaire. Elle me dit qu'on pourrait se défaire de ces utopies qui rendent nos nuits amères. Elle me dit, c'est tout et ses colères, comme aujourd'hui là c'est de toucher terre. Même si notre histoire peine à s'écrire, j'ai le scénario. Tout ce qu'il te faut. Elle me dit le pire et le meilleur, le bleu et le gris, mes poches vivent à toute heure. Elle me dit que l'issue lui fait peur, que je m'appuie sur trop d'apesanteur. Même si notre histoire peine à s'écrire, j'ai le scénario. Tout ce qu'il te faut, même si notre histoire peine à s'écrire, j'ai le scénario. Même si l'on s'égare dans l'intro, j'ai dû à tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il te faut. Peu importe si l'on n'a pas ce dont on rêvait, toutes ces maladresses passer, yeah. D'autres s'en sortent, entre nous rien ne presse, et demain ne fait que commencer, yeah. Même si notre histoire peine à s'écrire, j'ai le scénario, oh, oh. Même si l'on s'égare dans l'intro, j'ai dû à tout ce qu'il me faut. J'ai le
Elle me dit sur France Inter, mais elle ne me dit pas l'actualité de l'environnement, et non, elle ne me dit pas l'agenda, et elle ne me dit pas que les gaz à effet de serre, et ben ça galope hein, dans cette chanson, bien évidemment. Nous sommes avec Frédéric Danhé pour cette troisième partie, qui est ingénieur environnement, qui a écrit de nombreux ouvrages, qui intervient dans cette émission, l'Atlas du réchauffement climatique, Quelle France en 2030, une réédition sur les pollutions invisibles.
Oui, hein. Oui, ça sera en début octobre.
Début octobre, et alors, effectivement, je disais, ces gaz à effet de serre, ça galope. Dans les médias, maintenant, on s'y est fait. Ce n'est pas exactement ça qui fait l'actualité. Où en est-on ?
Ben, où en est-on ? C'est que c'est une fuite en avant parce que, fondamentalement, rien n'a changé. On est en situation de crise. Enfin, on l'est toujours, d'ailleurs. Mais en tout cas, pour les pays émergents, c'est un peu fini. Donc, la crise a fait qu'on a consommé moins de pétrole, de gaz, de charbon, etc. Donc, la consommation d'énergie avait baissé. Donc, les émissions de gaz à effet de serre avaient baissé. La crise est finie pour les plus gros acheteurs et les plus gros consommateurs de ces combustibles fossiles. Ils ont donc consommé plus d'énergie, 5% de plus en 2010 par rapport à 2009. C'est énorme, 5%, c'est gigantesque. Et donc, ils ont émis plus de gaz à effet de serre. C'est une fuite en avant. Le système économique n'a pas changé. Les pays émergents n'ont pas envie, évidemment, de ne plus atteindre notre niveau de vie, qui est quand même un peu leur objectif et on peut difficilement le leur reprocher. Alors évidemment, derrière tout ça, facteur 4, petit geste, sauver la planète, ça fait un peu sourire parce que la machine économique, c'est un gros moteur diesel de l'ancien temps, c'est un gros moteur de chalutier qui va mettre beaucoup de temps à freiner à moins qu'on décide de l'arrêter, de le stopper ou d'appuyer vraiment sur le frein. Et ça, ce n'est pas les petits gestes qu'ils
font. 3% par an depuis 10 ans d'augmentation de ces fameux gaz à effet de serre. Donc, ça a été 3 fois plus vite que lors de la décennie précédente. Maintenant, l'atténuation, il ne faut pas rêver. C'est faux, mais on est dans l'adaptation.
On est obligé de s'adapter à une situation qu'on ne peut plus contrôler. Voilà, pendant encore 20-30 ans, compte tenu de l'inertie du système, de la machinerie climatique, de l'inertie du système socio-économique, on en a pour une génération à s'adapter au climat qu'on est en train de fabriquer. Voilà. Il n'en reste pas moins qu'il faut envisager l'avenir, et parce que de telles émissions de gaz à effet de serre ne sont pas tenables. Aucun scientifique, au-delà de 3 degrés en plus à la fin du siècle, ne peut s'avancer. Aucun ne vous dira en tout cas que ça ne changera rien. On le voit bien avec ce dont a parlé Jean-Marie Pell tout à l'heure, avec la sécheresse, qu'elle soit liée ou non au réchauffement climatique. Ce qui est en train de se passer risque d'advenir de plus en plus fréquemment et de plus en plus lourdement dans le futur. Voilà, donc on est obligé de s'adapter à cette situation, mais on est obligé aussi d'adapter notre système socio-économique de façon à ce qu'il émette moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour que la situation ne soit pas pire que le pire qu'on est en train d'imaginer.
Alors, il y a un poste qui est extrêmement important. Je vais rebondir sur le mot diesel que vous avez évoqué donc, tout à l'heure. Le parc majoritaire en France, donc, c'est du diesel. Alors, d'un côté, on a les camions et puis de l'autre côté, on a les voitures. Il y a quelques idées reçues qu'il faut peut-être balayer en ce qui concerne les camions.
Oui, alors les camions, ça pollue, patiti patata. Non, si on se met à la sortie du pot d'échappement et qu'on mesure les polluants typiques du diesel, qui sont les allergènes qui inquiètent beaucoup la santé publique en ce moment, notamment les microparticules, cette pollution, ces émissions ont baissé de 90% en 20 ans pour un camion. Pourquoi ? Parce que les camions roulent longtemps, les camions ont donc un régime moteur qui est tout à fait adapté à la baisse des émissions. Et donc, les camions, in fine, par kilomètre, tonnes transportées, kilos transportés, sont plus, comment dirais-je, presque plus verts, pour reprendre le vocable habituel, qu'une voiture qui ne roule qu'en ville. Oui. Le problème de la France, c'est que, vous savez, il y a une dérive syntaxique qui a fait accroire que le CO2 était un polluant et que donc, si on réduisait le CO2, on réduirait la pollution. Donc, on a privilégié le diesel parce que le diesel émet moins de CO2 par kilomètre transporté, parce que le diesel consomme moins de litres par kilomètre, moyennant quoi on a augmenté la pollution de l'air, moyennant quoi on fait des moteurs très complexes qui tombent facilement en panne parce qu'ils exigent, ils exigeraient de leurs utilisateurs qu'ils roulent longtemps, qu'ils fassent 30-40 km par jour à plus de 3000 tours minute. Et ce n'est pas le cas du tout. Et le pire, c'est que ça n'a absolument pas permis cette dieselisation de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? C'est l'effet rebond. Vous avez une voiture qui consomme moins. Comme vous fonctionnez toujours à budget égal, et ben vous allez rouler plus longtemps. Et depuis 15 ans, chaque Français, vous et moi, enfin non pas moi, moi je ne roule pas beaucoup, chaque Français roule, fait 30% de kilométrage en plus qu'il y a 15 ans. Et ça explique aussi le fait que les émissions de gaz à effet de serre, que la consommation d'énergie, ce n'est pas seulement le fait, l'augmentation constatée, ce n'est pas seulement le fait des pays émergents, ça se constate dans tous les pays occidentaux, et en particulier en France. L'efficacité énergétique que l'on prône, c'est très bien, mais elle encourage ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire, puisque je fais une économie là, je peux investir ailleurs.
Voilà, on aime bien balayer quand même quelques idées comme ça avec vous, Frédéric Noé. On va voir des gens donc, qui se bougent. On va aller dans le Trièves. Alors, le Trièves, c'est une très belle région. On est dans le département de l'Isère. On est au sud de Grenoble. Et ils organisent jusqu'à demain donc, la fête de la transition. Alors, la transition, en fait, c'est un mouvement des communes en transition. Donc, c'est né en Angleterre pour rechercher des réponses collectives aux contraintes que nous connaissons, climatiques, énergétiques et économiques. Pierre Bertrand, que se passe-t-il donc jusqu'à demain dans cette fête de la transition dans le Trièves ?
C'est une fête où nous avons voulu rassembler tous les acteurs de notre petit territoire, que ce soit les associations, les collectivités, les entreprises, les agriculteurs, qui ont pris des initiatives diverses pour pouvoir préparer, on va dire, l'économie de demain. Ils l'ont fait pas forcément dans la perspective du déclin de nos ressources énergétiques ou autres, mais parce qu'ils sentaient une nécessité de changer. Donc que ce soit des filières courtes dans l'agriculture, manger local et bio à la cantine, par exemple, ou apprendre aux gens à faire leur compost pour arrêter de jeter tous nos déchets, surtout à la campagne, qui est une aberration. On a un agenda 21 local qui est, paraît-il, le premier de France. On a beaucoup d'initiatives à tous les niveaux par beaucoup d'acteurs et on avait envie de faire ressortir toute cette diversité d'actions qui est souvent finalement mal connue des habitants eux-mêmes pour la célébrer, pour la mettre en avant, remercier tous ces acteurs pour montrer qu'on a une véritable richesse pour se préparer à cet avenir encore un peu inconnu.
Alors, il s'agit en fait de façonner le monde de l'après-pétrole et vous vous êtes dit, bon, crise, oui, mais plutôt opportunité. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a une espèce de sentiment d'impuissance dans la société face à des événements qui sont assez graves. Et vous vous êtes dit, on veut redonner à chacun confiance.
Oui, tout à fait. Je crois que le public est assailli de documentaires, de films qui font souvent très peur sur l'avenir. Nous partons de l'idée, et le mouvement de la transition qui est né en Grande-Bretagne part sur l'idée que c'est pas en faisant peur aux gens, mais au contraire en leur ouvrant des perspectives, que l'on pourra avancer et leur donner envie d'avancer. Or justement, si l'après-pétrole, ça représente des contraintes énormes dans une économie qui est entièrement dépendante du pétrole, ça peut être aussi beaucoup d'opportunités. Songeons que... une énergie et des coûts de transport beaucoup plus chers, ça peut être des industries qui ont disparu de chez nous, comme le textile, la sidérurgie, qui peuvent revenir en France. Ça veut dire des territoires comme le nôtre, où on a beaucoup de forêts en montagne, qui peuvent recréer des emplois dans la forêt, mais aussi dans l'agriculture. Donc il n'y a pas forcément que du négatif dans cet avenir.
Est-ce que ceci va percoler et je dirais va remonter en direction des élus parce que quand même il y a un pouvoir politique qui est en place et
oui,
tant qu'on ne changera pas, on va dire, les indicateurs économiques, ça va être quand même assez compliqué de faire bouger les choses.
C'est compliqué de les faire bouger. Nous sommes persuadés que de toute façon, ils ne bougeront pas et les solutions ne viendront pas d'en haut. On le voit bien avec le Grenelle, aussitôt il est voté que déjà il est mis par terre oui. Parce qu'on met en cause les subventions et autres. Donc c'est pour ça aussi qu'on invite les citoyens à se prendre en charge. Et on peut espérer, soyons visionnaires et soyons optimistes justement, qu'un mouvement de fond, que ce soit des mouvements de type écologique ou de type sociaux, comme ce qu'on voit à la
Puerta
de à Madrid, oui. Et qui sont liés, qui forcent finalement quand même les politiques à bouger tôt ou tard.
Voilà, donc ça se passe dans le Trièves, vous pouvez y aller en autoroute, l'autoroute A51 pour monter jusque là-haut, je plaisante, non mais en plus c'est ça, elle est, c'est du très très lourd cette autoroute-là. Alors, on n'a pas l'argent quand même actuellement, donc, mais les ingénieurs voient que d'un côté ça s'arrête du côté de Sisteron, puis de l'autre du côté du col du Faux, donc ils aimeraient évidemment beaucoup raccorder tout cela. Nous allons nous intéresser avec vous Frédéric Danhé à nos chers oiseaux, ils ne sont pas en très grande forme parce qu'on a une disparition quand même assez préoccupante des oiseaux aujourd'hui.
Oui, c'est le stock, hein. C'est l'observatoire des oiseaux communs de France, hein, qui a été monté sous l'égide du Muséum national d'histoire naturelle, Denis Couvet, Frédéric Giguet, entre autres. Alors qu'est-ce qu'on observe ? Donc, cet observatoire observe depuis une dizaine d'années l'évolution des populations d'oiseaux communs, d'oiseaux nicheurs, d'oiseaux dans les forêts, dans les villes, sur les terres agricoles. Et on remarque que là, les oiseaux nicheurs, les oiseaux typiquement inféodés aux terres agricoles, aux paysages de la campagne, comme l'alouette des champs, tiens, oui. Sont en baisse. en chute d'effectifs de 25 à 30%, si ma mémoire est bonne. C'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant parce que, alors, c'est pas les espèces incriminées vont disparaître. Hein, et DSK n'y est pour rien. DSK n'y est ni Ségolène Royal. Voilà, je rassure Jean-Marie. C'est pas tant qu'il y a une menace sur les espèces que ce que ça montre. Et ce que ça montre, c'est que la fragmentation, ce qu'on appelle la fragmentation des territoires, c'est-à-dire on crée une route qui coupe en deux une forêt, qui coupe en deux une prairie. C'est que le changement d'affectation des sols, c'est-à-dire on transforme une prairie en la labour, on a un champ de céréales, c'est que l'étanchéification des sols, du macadam, continue. Les deux premières causes de cette raréfaction, ce n'est pas, comme j'ai pu lire dans certains médias, les pesticides. Non, pas du tout. Ça, c'est le cas pour certains prédateurs en fin de chaîne alimentaire. Non, c'est vraiment ça. Ce sont des terres agricoles qui s'homogénéisent, c'est-à-dire une diminution des niches écologiques, donc des endroits où ces oiseaux peuvent vivre. C'est une fragmentation des milieux naturels qui fait que la petite alouette mâle a du mal à aller voir la petite alouette femelle. Voilà, c'est tout ça. Donc, autrement dit, malgré cette prise de conscience, y compris dans le monde agricole, qu'il faut changer la façon de faire, eh bien, le mouvement continue. Et juste une petite chose, on continue, et on le voit ça sur certaines populations d'oiseaux inféodés à ce milieu, on continue à drainer les zones humides, c'est-à-dire à transformer les zones humides en terre à maïs. Et on voit
ce que ça donne,
quand il y a une petite sécheresse.
Eh bien ça, on va effectivement y revenir. Alors entre autres, il y a un emblème, celui de la LPO, qui est le macaremoine. Les gens ne voient pas très bien ce que c'est, mais c'est donc un petit oiseau qui ressemble un peu à un clown. Il est absolument délicieux. Il y avait 10 000 couples en 1950. Il n'y en a plus que 500 maintenant qui nichent en Bretagne. Alors justement, après, on va dire cette fête des oiseaux. Et après la fête des mers, voici la fête des mares. Oui, parce qu'en un siècle, les trois quarts des zones humides sur le territoire français donc, sont passées de vie à trépas, donc asséchées, drainés, bitumés, vous l'avez bien dit. Et 90% des mares ont disparu. Donc on va retrouver Marc Giraud de l'ASPAS, de l'Association pour la protection des animaux sauvages, car vous avez lancé cette fête des mares. Marc Giraud, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors vous avez souhaité donc lancer cette fête des mares, pourquoi ?
Oui, avec Laurent Baffy, il ne faut pas oublier, mais ce n'est pas une blague. C'est très sérieux, on se marre, mais en fait, vous venez de le dire, il y a de moins en moins de zones humides. Donc en plus, en ces temps de sécheresse, un petit peu d'eau de temps en temps, c'est nécessaire à la vie, c'est nécessaire à des tas d'animaux aquatiques, mais aussi aux animaux terrestres, les oiseaux qui ont soif, c'est très important. Donc l'idée, c'est de creuser des mares, de recreuser celles qui ont été comblées et de faire une espèce de réseau national de plein de petites mares pour tous les insectes et les animaux qui en ont besoin.
Alors des bienfaits pour les animaux, des bienfaits aussi pour les humains, parce que ça fait quand même à la fois un très joli spectacle de chance naturelle sous les yeux.
Absolument, c'est très pédagogique. Les enfants adorent les mares parce qu'ils vivent dans un monde où tout est plus grand qu'eux. Et aller regarder les tritons, les têtards, les larves de dytiques, de libellules, tout ça, c'est une vie qui les passionne. La mare, c'est une espèce d'univers fascinant, aquatique, et les enfants adorent ça.
Et puis, c'est aussi une façon d'apprendre ce qu'est un écosystème. Lorsqu'on ne sait pas très très bien ce qu'il y a derrière ce mot, la mare est un véritable écosystème.
Oui, absolument. Bien sûr, ça fonctionne tout seul, donc il faut des plantes pour faire de l'oxygène. Ensuite, il y a des tas d'animaux qui se mangent les uns les autres. Tout ça, il faut laisser faire. Hein. On a fait des fiches pour creuser des mares, pour les entretenir, tout ça. Il faut aller voir le site de l'ASPAS et on sait tout.
Voilà, merci à vous Marc Giraud, puis on vous retrouve bien sûr demain avec Vivre avec les bêtes. Ce sera à 16h sur France Inter, Harrison.
My
Eh oui, c'était George Harrison sur France Inter. Difficile de ne pas le reconnaître. Nous poursuivons ce voyage avec cette actualité avec vous, Frédéric Doré. Tenez, je vous signale que du côté de Colmar, anciennement c'était à Rouffach, eh bien vous avez la 30e fête foire bio qui a lieu donc tout ce week-end. On travaille activement depuis très longtemps à Rouffach et à Colmar sur ce bio. Quelques mots quand même de la sécheresse. Ça mérite d'ailleurs un petit peu plus que quelques mots parce que là, d'un côté, on nous dit retenue collinaire. De l'autre côté, on sent bien que peut-être on aurait peut-être dû mettre d'autres semences. Donc, un peu votre recul et votre sentiment, Frédéric.
Ben, on s'aperçoit que l'eau n'est pas forcément rare, mais qu'elle est moins disponible au moment où on en a le plus besoin. Et on parlait d'adaptation tout à l'heure, ben c'est exactement ça. Ce genre d'épisode risque de se multiplier et avec des usages qui ne vont faire qu'augmenter simplement avec l'augmentation de la démographie. Donc d'ores et déjà, il faut se poser des questions. On oublie complètement que l'agriculture, c'est avant tout une façon de gérer le sol. C'est la gestion du sol. Les dépositaires du sol, ce sont les agriculteurs. Et dans le sol, il y a de l'eau. Et l'eau qui emplit nos cours d'eau, et l'eau qui emplit nos nappes phréatiques, elle transite par le sol. Donc le sol, c'est un élément important. Et si le sol est mal géré, eh ben, la quantité d'eau disponible baissera à un moment ou un autre, ou la quantité disponible deviendra trop forte à un moment ou un autre, hein, avec le ruissellement qui gonfle les rivières, par exemple. Et c'est ça qu'on redécouvre aujourd'hui. On redécouvre qu'un sol prairial, en été, contient plus d'eau qu'un sol de champ de céréales. On découvre à l'inverse qu'en hiver, un sol labouré, c'est-à-dire qui n'a pas été totalement aplati par les engins agricoles en hiver, capte beaucoup plus l'eau des pluies que ces fameux sols de champs céréaliers totalement plats en hiver, mm-hmm. parce qu'on les a laissés à l'air libre après le labour. Voilà. Alors, retenue collinaire, oui, bien sûr, à certains endroits, il faudrait faire de la retenue collinaire. Sous conditions écologiques, environnementales, acceptation sociale, etc. Mais ça ne peut pas être que la première réponse. Pour la FNSEA, c'est forcément...
Voilà, c'est ce qu'on a entendu. Hein,
mais forcément, on est un pays d'ingénieurs, on réagit en ingénieurs. On attend que le problème soit évident pour le régler. Donc on va faire des grands trous, on va retenir l'eau. D'accord, mais ce n'est pas la seule solution. Encore une fois, il faut permettre au sol de capter un maximum d'eau en été et en hiver. Et dans les régions où on sait pertinemment que ce genre d'épisode se reposera, il faut se poser la question des cultures d'été. Hein, faire pousser du maïs en été, c'est, dans certaines régions, c'est assez aberrant. Alors, quant à l'irrigation, on parle beaucoup d'irrigation, c'est pas grand-chose encore en France. Hein. 6% seulement des terres agricoles, de la surface agricole utile française est irriguée, donc c'est pas ça qui prend le plus d'eau. Ce qui prend le plus d'eau, ben, c'est qu'il en manque. Et s'il en manque, c'est parce qu'on a des sols dont la quantité d'eau est de plus en plus faible, parce que les sols, on les travaille d'une façon qui ne permet pas, in fine, de leur accorder un grand pouvoir de rétention d'eau.
On parlait d'adaptation, on est en plein dedans. Ces méthodes culturelles, de toute façon, devront changer si on continue sur ce rythme-là de réchauffement.
Évidemment. Il faut envisager une autre façon de gérer le sol, il faut envisager une autre façon de mêler à la fois des paysages ultra-productifs, des paysages moins productifs, entrecoupés de ce qu'on appelle les trames vertes. C'est quoi ? In fine, quand vous mettez du bocage, quand vous mettez des bandes enherbées, quand vous mettez un petit machin de prairie entre deux parcelles, ben vous faites une retenue d'eau. Mm-hmm. Vous faites une retenue d'eau, c'est-à-dire vous permettez à l'eau de s'infiltrer dans le sol et vous évitez à l'eau qui se mettrait à ruisseler, vous évitez à l'eau d'arriver trop vite dans les cours d'eau, ce qui augmente l'intensité des inondations. Donc oui, c'est de l'aménagement du territoire. L'adaptation de la France au changement climatique, c'est avant tout l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire, c'est avant tout une politique agricole.
Frédéric Doré, nous avons entre les mains le Monde magazine de cette semaine avec un sujet très intéressant qui est signé Laurent Carpentier de Pierre Rabhi, donc l'écolo tranquille. Et j'ai eu le plaisir de le rencontrer à Kerbastik avec Constance de Polignac, donc sur Pierre Rabhi. Et puis aussi un reportage Guatemala, victime de l'agro-business. Ça nous fait un lien avec l'huile de palme dont on va parler maintenant, avec Sylvain Engérand. Pourquoi ? Parce qu'une usine de raffinage d'huile de palme devrait s'installer dans 2 ans à Port-la-Nouvelle dans le département de l'Aude. Donc, satisfaction générale des élus. 50 emplois à la clé. Cette huile vient, bon, d'accord, du Libéria, de la Malaisie. La monoculture de palmiers a rayé de la carte des millions d'hectares de forêts primaires. Alors, mise au point avec vous, Sylvain Engérand, donc chargé de campagne des Amis de la Terre.
Ah, derrière l'huile de palme, il y a un véritable scandale à la fois écologique et social. Parce qu'il y a des personnes qui sont expulsées en Indonésie, en Malaisie et désormais en Afrique. Sindarbi, donc la société qui souhaite ouvrir cette usine d'huile de palme, alors je vous rassure, elle n'est pas encore ouverte et on va tout faire pour qu'elle ne soit pas ouverte. Cette entreprise, Sindarbi, c'est le géant mondial de l'huile de palme. Mmh. C'est un groupe à l'origine malaisien qui aujourd'hui est en train d'acheter des milliers d'hectares en Afrique, 200 000 hectares au Libéria notamment, et ils veulent construire cette usine pour pouvoir alimenter tout le sud de l'Europe et l'Afrique du Nord. Donc c'est une véritable porte d'entrée.
Alors, faut rappeler une chose, c'est qu'en fait les industriels de l'agroalimentaire et donc aussi de la malbouffe en fourrent absolument partout de cette huile de palme.
Alors voilà, il y a l'aspect alimentaire où on retrouve de l'huile de palme dans de nombreux produits de consommation courante. Hein. Nous, on a trouvé quasiment un produit de supermarché sur 10, hein, voire dans certains rayons. Comme
cornets de glace, viennoiserie, barres de céréales, pizza, frites industrielles et j'en passais des meilleurs.
C'est assez simple, en fait, l'huile de palme, elle est utilisée dans la plupart des plats surgelés, des plats préparés. Quand vous faites une pâte à tarte pour faire votre quiche, bah, vous ne mettez pas d'huile de palme. Vous l'achetez au supermarché, vous avez l'huile de palme. Donc l'huile de palme, elle est apparue en même temps que nos modes d'alimentation ont été bouleversés. Et aujourd'hui, le gros danger qu'il y a, c'est surtout l'utilisation comme agrocarburant. Alors, de façon directe, on met de l'huile de palme en mélange pour faire rouler les voitures, voire faire voler les avions, mais de façon aussi indirecte. Et c'est là où on essaye de mobiliser l'opinion publique et les députés européens, parce qu'on a utilisé toute l'huile de colza et de tournesol européen qui est utilisée par l'industrie agroalimentaire, on l'a fait passer comme agrocarburant. Et en substitution, aujourd'hui, bah les industriels agroalimentaires qui ne trouvent plus d'huile de colza sont obligés d'apporter encore plus d'huile de palme. Donc vous voyez, cette usine, en fait, elle s'inscrit dans cette logique-là. On est en train de faire exploser la consommation d'huile végétale en Europe avec cette flambée des agrocarburants, et on a besoin de construire des usines. Donc ce n'est pas un combat contre une usine, c'est un véritable combat contre une politique européenne qui est une fuite en avant, quoi.
Sylvain Gérand, donc des amis de la Terre, merci à vous Frédéric Danhé. Vous reviendrez, je pense, la semaine prochaine, parce que là, on a une très bonne nouvelle. Jean-Claude Amezen, que vous connaissez très bien, évidemment, le samedi à 11h sur France Inter, sera rédacteur en chef de cette émission, donc il va venir en direct. Vous serez là, il y aura Jean-Marie Pelt, d'autres sujets donc, qu'il aura choisis. Donc Jean-Claude Amezen, c'est pour la semaine prochaine. Merci à Dofar Guérid, à Guillaume Roux à la technique, à Marion Lelay, à Jean-Christophe Pinaza, à Valérie Ayestaraï qui a réalisé l'émission, à Muriel Pérez qui a choisi les disques, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Je vous retrouve, demain, 19h54, après les petits bateaux, ce sera l'atelier Mon Petit Loup. Et dans quelques instants, ce seront les liaisons heureuses avec Colombe Schneig, Denis Chessou. Je vous souhaite un excellent week-end.